Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Alors chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble, et bien avec nos invités, notre grand témoin, nos experts, l'ensemble de l'économie, ce qui se passe, les actus, les bons plans aussi. Et puis voilà, j'ai le plaisir bien sûr d'être accompagné comme d'habitude par Julien Bouissou. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Chaudement, mais ça va.
C'est vrai, chef de service argent et placement donc du magazine Capital. Julien, on s'intéresse à un sujet brûlant, une fois de plus, en tout cas qui intéresse de plus en plus de Français.
Exactement, le plan d'épargne retraite, le PER, hein, on vient de faire un premier bilan du lancement, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Donc il y a plus de 3 millions de détenteurs à l'heure actuelle, 30 milliards d'euros d'encours, donc c'est un joli succès hein, pour un lancement, au tel point que selon un sondage, les épargnants considèrent que ce plan d'épargne retraite est meilleur pour préparer sa retraite justement que l'assurance vie. Mmh. Alors on va faire le point sur ce nouveau produit qui a apparemment bien du charme, avec deux spécialistes et deux concepteurs de produits. D'abord Christophe Olivier, bonjour, vous êtes directeur général de MyPension.
Bonjour.
Bonjour Christophe. Et avec nous aussi Mathieu Chauvin, qui est le président d'ERES.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Voilà, des concepteurs et des vendeurs de PER, un produit qui a, on peut le dire, le vent en poupe. Ça n'a pas été le cas hein, de tous les produits qui ont été lancés, mais là, voilà, avec dans le cadre de la loi Pacte, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, Julien. On va voir également de vos rubriques favorites et connues, le coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier, le président de PrimeZoo, ça sera juste après. Et puis, en dernière partie d'émission, vous le savez, nos experts seront là pour répondre aux questions de Thibault Lamy dans la rubrique « Ça vous concerne ». Voilà, pour le sommaire, le grand rendez-vous de l'épargne, c'est parti.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Le grand rendez-vous de l'épargne spécial PER, un produit que vous connaissez sans doute, que vous avez peut-être déjà mis dans vos portefeuilles. Julien, on rappelle les chiffres, puisqu'on connaît sur ce nouveau produit, hein, il a à peu près 2 ans, il a été lancé fin 2018.
Octobre 2020. Octobre 2019.
Voilà, on l'oublie avec voilà. Cette crise qui est passée
et
par
donc,
là.
Vous voyez, il y a eu toute l'année 2020, on va le voir peut-être un peu particulière, mais donc on est quasiment aux 2 ans de ce produit. Et donc après, il faut compiler les différents chiffres, mais on aurait à peu près 3 millions de détenteurs, à la fois version individuelle, le PER 1, et version collective qui est proposée dans les entreprises, le PER Col, et donc 30 milliards d'euros d'encours, ce qui quand même, va permettre probablement à Bruno Le Maire d'atteindre ses objectifs d'encours d'épargne retraite.
Mathieu Chauvin, on démarre avec vous. Effectivement, on a parlé par un PER Col. Alors déjà, on commence hein, voilà, dans les acronymes, on en est habitué avec la finance. Est-ce qu'on peut faire le panorama de ce PER, plan d'épargne retraite, qui s'adresse à différentes catégories finalement, particuliers comme placement collectif dans les entreprises?
Absolument. Le PER, c'est l'appellation générique, donc c'est le plan d'épargne retraite. Il peut être souscrit par une entreprise pour le compte de ses collaborateurs, et on va l'appeler dans ce cas-là un PER collectif, et donc on va le souscrire dans le cadre de son contrat de travail avec son employeur, qui va nous verser des primes d'épargne salariale, la participation, l'intéressement, l'abondement. On va aussi pouvoir faire des versements volontaires qui vont être déductibles. C'est une des nouveautés de l'apport dans le monde du collectif de ce PER. Et il vit sa vie dans le monde collectif à côté du PE, du plan d'épargne d'entreprise, qui lui a une durée d'épargne de 5 ans, donc une durée courte et une durée longue avec le PER qui vient compléter le dispositif de l'entreprise. À côté de ça, on peut souscrire ce produit dans le cadre individuel auprès de son intermédiaire financier habituel. Ce PER, il a vocation première à faire de l'épargne volontaire individuelle en vue de préparer sa retraite. Il peut aussi permettre d'agréger des contrats anciens, de l'ancien monde de l'épargne retraite, des PERP, plan d'épargne retraite populaire, des contrats Madelin pour les produits des indépendants professionnels libéraux qui se constituaient déjà une retraite supplémentaire dans ce monde-là avant, mais aussi des contrats plutôt destinés à la fonction publique, préfonds, CRH, etc., qui sont des contrats de régime à points, généralement, hein, qu'on retrouve et qui sont eux aussi transférables dans l'environnement du PER. Et on peut, et ça c'est une des grandes nouveautés du PER, transformer son produit qu'on a souscrit dans le cadre de l'entreprise, son PER collectif, on peut le transférer vers son PER individuel si on veut rapatrier de l'épargne une fois qu'on a quitté son employeur ou même avant pour regrouper son épargne toujours au même endroit. L'idée est de ne pas avoir fait des noisettes un petit peu partout et de pouvoir
récupérer, d'en oublier certaines aussi.
Et parfois d'en oublier certaines, mais de tout recentrer ça dans un seul et même contrat qu'on liquidera le jour où on prend sa retraite ou pas. Il y a des stratégies qui consistent à ne pas liquider ce contrat.
Alors justement, Christophe Olivier, vous êtes directeur général de MyPension, nouvel acteur, et j'ai cette question concernant effectivement la volonté du législateur peut-être de simplifier en fait. C'est vrai qu'on avait différentes formules, on avait du PERP, du PERCO, du contrat Madelin, on vient d'en parler. L'idée c'est de fusionner tout ça en un seul contrat.
Absolument. Alors l'effort de simplification est remarquable de notre point de vue. Il reste quand même qu'il y a les deux modes différents qu'ont expliqué Mathieu, c'est-à-dire le collectif d'un côté, l'individuel de l'autre. C'est le mode d'alimentation qui est différent. Mais le PER individuel et le PER collectif ont la même structure, c'est-à-dire qu'ils ont chacun des compartiments qui correspondent au mode d'alimentation. Le mode d'alimentation, un compartiment 1, qui est le mode d'alimentation des versements volontaires, c'est celui traditionnel de l'épargne du PER individuel. Le compartiment 2, qui est le versement traditionnel du collectif, et le compartiment 3, qui correspond à des régimes spécifiques obligatoires de type ancien article 83. Donc, cette simplification, elle permet effectivement de faire en sorte qu'on puisse vivre avec un regroupement très efficient de ces contrats.
Alors ça, c'est un point fort de ce nouveau produit. Parmi les autres points forts qui expliquent apparemment aussi le succès, il y a plusieurs atouts. Il y a la possibilité de récupérer totalement le capital à la retraite, hein, alors qu'avant, c'était le plus souvent la rente, hein, qui était plus ou moins la sortie obligatoire. Et aussi possibilité, je crois, de débloquer l'épargne pour sa résidence principale. Alors, est-ce que ça fait aussi, vous qui voyez les souscripteurs, des arguments qui font mouche ?
Alors, clairement. Ouais. Clairement, si vous voulez une analogie mécanique, le moteur qui fait qu'on s'intéresse à l'épargne retraite individuelle en versement volontaire, c'est l'avantage fiscal, qui est le principe même de l'épargne retraite supplémentaire, c'est-à-dire une déductibilité du revenu des sommes dans la limite d'un certain plafond, sachant que ces sommes seront quand même imposées à la sortie. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et que c'est une déductibilité du revenu et pas de l'impôt, comme je l'ai entendu de certains souscripteurs qui viennent nous voir et qui disent « je vais déduire de mon impôt ». Non, c'est une déductibilité du revenu. Il n'empêche que ça, c'est le moteur qui fait que les gens vont venir. Mais il y avait deux freins très forts. Le premier, c'est la sortie en rente. La sortie en rente n'est pas appréciée par un grand nombre de souscripteurs. On pourra y revenir. Il y a des raisons à cela. Et la deuxième, c'est l'illiquidité des fonds. L'illiquidité des fonds, dans l'esprit du législateur, c'est la contrepartie de l'avantage fiscal. Donc il est normal. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir élargi les sorties anticipées à l'acquisition de la résidence principale, et pas nécessairement la première fois, permet quelque chose qui n'arrivait pas avant, c'est de faire en sorte que des gens qui sont en début de carrière et qui n'ont pas encore acquis leur immobilier peuvent rentrer dans le système de l'épargne retraite individuelle. Donc on a éliminé un des freins, on a largement enlevé l'un des problèmes de l'autre frein, et donc on est prêt à avancer véritablement sur l'épargne retraite individuelle, de mon point de vue.
Donc il y a un rajeunissement des souscripteurs, parce que c'est vrai qu'avant le PERP, c'était vers les 50 ans, hein, 45, 50, allez, bon, on se disait, la retraite approche, j'y vais. Là, avec le PER individuel, le PER 1, qu'est-ce qui se passe ?
Avec le PER 1, il y a un léger effet de rajeunissement. Il n'est pas encore complètement évident, puisque, comme on le citait, l'avantage fiscal est un des premiers facteurs d'achat. Et donc, il faut avoir une pression fiscale et subir une pression fiscale importante pour y trouver un intérêt direct. Et donc, on va retrouver plutôt des générations qui ont déjà des TMI, des taux marginaux d'imposition au-delà de 30%. Et donc, c'est là où on va vraiment retirer le substrat d'utilité mathématique de l'économie du PER. Et donc, forcément, on n'a pas complètement rajeuni la population. Il faudra que le législateur nous aide à aller chercher d'autres arguments pour aller encore séduire les populations les plus jeunes. Mais on pense qu'au-delà de l'intérêt fiscal qui est évident, il faut aussi que ce produit soit souscrit dans un vrai but de se construire un complément de revenu pour la retraite. C'est ce que nos générations de demain ont de plus en plus en tête, parce qu'elles ont bien conscience que les régimes obligatoires de répartition ont atteint leurs limites. Le COR nous l'a encore rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, dans ses dernières études et analyses. Donc on est toujours dans cette même configuration avec un nombre de cotisants qui ne cesse de baisser par rapport à un nombre de personnes inactives auxquelles il faut financer la retraite qui ne cesse d'augmenter. Et donc cet état de fait, il va faire baisser mécaniquement les pensions, les régimes obligatoires. Et donc il faut qu'on se trouve un revenu de remplacement de demain. Et le produit de retraite individuelle est la réponse à cela avant la vente. Après l'avantage fiscal.
Ouais, le COR, hein, le Conseil d'orientation des retraites.
Pardon,
on essaie de traduire les acronymes,
merci, ouais,
parce qu'il y en a beaucoup. Je prolonge la question justement de Julien, on a dit rajeunissement, ça veut dire pour ceux qui nous regardent cette émission, tout le monde aujourd'hui a accès à ce nouveau produit d'épargne ?
Absolument tout le monde a accès à ce nouveau produit d'épargne, que les personnes soient des personnes mineures rattachées à un foyer fiscal, elles peuvent se voir offrir un plan d'épargne retraite, puisque
pour les mineurs, déjà penser à la retraite, c'est compliqué.
Dans le disponible retraite que nous calcule l'administration chaque année, il y a un plafond calculé pour les enfants rattachés au foyer. Et donc on peut aussi aller à l'autre bout du segment et aller ouvrir des PER à des personnes qui sont déjà retraitées mais qui continuent
c'est
de subir
une pression
fiscale.
C'est possible ça, parce que c'est toujours surprenant, mais on peut...
Oui, avec certains âges limites qui sont généralement fixés par les compagnies d'assurance, ouais. mais on peut déjà souscrire, même après sa retraite, pendant les 10 années qui suivent sa retraite, généralement on peut encore souscrire le PER.
Jusqu'à 75 ans
Oui, 74 ans, c'est l'âge à partir duquel, en général, l'assureur a défini un marché cible au-delà duquel on ne va pas dans l'âge.
D'accord, de 7 à 77 ans, voilà. C'est marqué sur certains jeux. Bon, bah là, c'est pour votre épargne, c'est pour la bonne cause. Mathieu Chauvin, une question concernant les multiples vies professionnelles qu'on va avoir. On l'espère, on vous le souhaite, tous autour de cette table et puis ceux qui nous écoutent. Voilà, il n'y a pas qu'une vie dans une vie, on peut passer du privé au public, etc. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on a un PER, un plan finalement unique qui va nous suivre, ou est-ce qu'on va perdre les avantages si on change d'entreprise? Ou Mathieu?
C'est un plan qui va nous suivre toute notre vie, qu'on va pouvoir centraliser, regrouper. Et c'est à ça que sert aussi le produit de retraite individuelle. Donc on pouvait déjà hier transférer son PER collectif dans un PER collectif ouvert par son nouvel employeur, et donc se faire suivre son épargne professionnelle. C'était plus compliqué d'emmener l'épargne professionnelle dans l'épargne personnelle. Là, c'est désormais possible. Donc le PER individuel va être ce réceptacle de toutes ces vies professionnelles et de ces stratifications de constitution d'épargne dans l'environnement pro, public, privé.
Et il faut signaler qu'on peut changer facilement de crèmerie aussi, parce que c'était un des objectifs de la loi, c'était renforcer un peu la concurrence sur ces produits où on est attaché jusqu'à la retraite, donc pour favoriser le transfert entre établissements. C'est aussi un des points. Il y a des frais de transfert limités.
Il y a un plafond sur les frais de transfert dans la loi, ce qui est un aspect très positif, effectivement, puisque antérieurement, il pouvait y avoir des frais très élevés en cas de transfert.
On était à 5%, hein, c'est ça?
Oui, on pouvait, ça dépend des contrats.
Ouais. Hein,
on va voir toutes les problématiques de transfert. Il faut analyser dans le détail les petites lignes du contrat qu'on a. Chaque contrat était différent, c'est pas nécessairement 5%.
D'accord, mais la règle maintenant, avec ces nouveaux produits, c'est
0,5%. C'est un plafond.
Ouais, et au bout de... Après,
et après, c'est 10 ans
5 ans. Ouais, c'est 1% dans les limites des 5 premières années. Et donc, effectivement, ça limite un peu l'application des frais. Et comme on le disait, il y a effectivement des règles strictes dans l'organisation de ces transferts. Il y a une obligation et un devoir de conseil qui s'applique à justifier de l'intérêt des transferts. Il n'est pas forcément évident que la volonté de regrouper ces noisettes soit forcément la finalité qu'on doive atteindre nécessairement. Des fois, on a intérêt à rester dans le régime de son employeur qui peut être plus favorable parce que les frais ont été négociés, parce que les supports d'épargne sont de qualité, et donc tout ça s'analyse et on doit faire une étude approfondie et être accompagné pour faire cette étude pour justifier et légitimer le transfert, parce que ça n'est en aucun cas une évidence.
Voilà, plein d'avantages, c'est ce qui explique le succès de ce PER. Messieurs, je vous propose de faire une courte pause. On va accueillir dans un instant Didier Clarbou, directeur épargne retraite du courtier Verspiren, qui sera avec nous en visio, et on se retrouve juste après.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Le reportage, eh bien, il est en direct avec vous, Julien Bouissou. Vous interviewez Didier Clarbeau, il est directeur épargne retraite du courtier Verspirène. Bonjour, monsieur Clarbeau.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur Clarbeau. Alors, bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la partie PER collectif, hein, c'est le produit qui est proposé dans l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé le lancement de ce produit en entreprise, notamment avec une année 2020 où les DRH ont peut-être eu autre chose à faire que lancer ce produit ? Est-ce que la souscription est bonne ou pas ?
Alors, en fait, ils n'ont pas eu de chance, hein, nos amis du gouvernement, parce qu'en fait, les produits ont été pratiquement disponibles sur le marché à partir de janvier 2020. Et malheureusement, la pandémie est arrivée dès le mois de mars, avec le premier confinement, ce qui a un peu... terni le lancement de ce nouveau dispositif qui a de l'attrait hein, dans les entreprises comme pour les particuliers. D'ailleurs, en fait, sur les mêmes critères qui ont été repris par vos intervenants de ce matin, puisque les options, notamment capital, intéressent forcément les épargnants. Mais effectivement, il y a eu quand même un blocage et on a un démarrage qui commence vraiment maintenant. Hein, je vous en avais parlé dans d'autres circonstances. En fait, depuis le début de l'année, on sentait un frémissement. Et là, depuis le deuxième trimestre, vraiment, on a beaucoup d'études et il y aura forcément des réalisations importantes.
Et est-ce que ça va se diffuser dans les petites entreprises aussi ? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est des produits, l'apanage des grands groupes. Hein. Je suis dans un grand groupe, je suis bien équipé en épargne salariale, en épargne retraite. Est-ce que c'est aussi un produit qu'on va voir arriver dans les PME ?
Bah, c'est tout l'enjeu des distributeurs, comme nous. Hein. C'est d'attirer, en fait, les entreprises de taille plus moyenne qui n'ont pas encore... adopter un plan d'épargne retraite ou un plan d'épargne salariale retraite pour leurs salariés.
D'accord. Donc
c'est le vrai marché, hein, parce qu'en fait aujourd'hui le marché de la retraite collective, vous avez essentiellement deux marchés, marché de la très grosse entreprise où vous avez dans les équipes de DRH des gens qui sont en fait, ils ont la mission d'organiser l'épargne salariale au sein de l'entreprise et d'optimiser au mieux pour leurs salariés leurs avoirs en PE ou en PERCO ou en retraite complémentaire. Bon, donc ça sont pratiquement les boîtes du CAC et quelques autres très très grandes enseignes. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la retraite élitiste, hein, qui visait plutôt les dirigeants.
C'est les retraites chapeau, enfin tout ce qu'on
ouais, ça. Retraite chapeau ou retraite à cotisation définie, hein, les anciens 83, et qui était ciblé pour des catégories privilégiées. Donc, ce qu'il faut, nous, il faut qu'on alerte nos clients et qu'on parle avec les DRH parce que c'est dans la communication. Et sur les problèmes de retraite qui ont été soulevés dans la première partie de votre intervention de ce matin, notamment la dérive des régimes de retraite et les déficits qui se creusent de façon très importante, et sensibiliser donc nos clients à mettre en place des dispositifs en impliquant l'épargnant, puisqu'il faut que le salarié… Il s'implique également dans la constitution de sa retraite.
Justement,
ça, c'est quand même,
excusez-moi,
c'est quand même un changement drastique de la protection sociale en France, où toute entreprise va disparaître et où il faudra quand même que chacun prenne une partie de ses responsabilités et prennent en charge le financement de sa future retraite.
Alors justement, si on se met dans la peau de l'épargnant qui va peut-être se voir donc proposer un PERCOL par son employeur et qui aura peut-être un PER individuel de son côté, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cet épargnant est-ce qu'il y a une enveloppe à privilégier, la collective face à l'individuel qu'est-ce qu'il faut regarder avant de faire ses versements ?
Bah, là, je rejoindrai l'avis de votre intervenant qui disait qu'il y a lieu d'abord de vérifier la pertinence du transfert. parce que il peut avoir un régime particulier avec par exemple une enveloppe financière qui est différente et intérêt à garder son enveloppe à la fois individuelle ou et l'accumuler avec celle de l'entreprise. Bon, mais bien souvent, je suis également d'accord avec lui, bien souvent, les frais de gestion sont écrasés dans les régimes collectifs. Mais en fait, c'est un scénario qu'il faut étudier avec l'intéressé.
Et il y a aussi les modes de gestion, puisque sur ce produit, c'est un pilotage automatique par défaut qui est appliqué, donc la gestion à horizon, c'est ce qu'on dit. Mais ça, mine de rien, il faut quand même regarder précisément en quoi elle consiste. Comment elle est faite.
Nous le rôle du courtier distributeur que nous sommes, c'est là où on intervient. C'est-à-dire quand on a décidé l'entreprise à aller vers une souscription et choisi le plan qui convient, soit on prend un régime, ce qu'on appelle le PERO, qui est donc le PER obligatoire, qui est un régime catégoriel, soit on prend un PERCOL qui est un régime universel, c'est-à-dire qui concernera l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà la première étape. Une fois qu'on a choisi le véhicule, après, il faut monter le cahier des charges avec le client pour voir quelles sont ses aspirations et quelles sont ses demandes particulières. Et la gestion financière fait, à mon avis, partie inhérente de ce cahier des charges. Et elle est très importante, puisque le pilotage de l'allocation par horizon peut donner des différences notables au niveau des résultats financiers.
D'accord.
C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien des gestions pilotées qui ne soient pas couperées, mais qui soient plutôt… en fonction des marchés, c'est-à-dire que le gérant prend la liberté d'anticiper peut-être une sécurisation des fonds parce que les marchés sont hauts, ou de les différer parce qu'ils sont trop bas.
Voilà, comme en ce moment, très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse pour les épargnants qui auraient la chance d'avoir ces deux produits en même temps. Merci Monsieur Clairbout.
Merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, merci Didier Clairbout, directeur épargne retraite du courtier Verspiren. Le grand rendez-vous de l'épargne spécial PER, on est toujours en compagnie de Christophe Olivier, directeur général de MyPension, expert pour ceux qui le souhaitent regarder sur internet, et Mathieu Chauvin, le président d'ERES. Alors on vient d'écouter Julien Boussu, effectivement Didier Clairbout, Verspiren. On a parlé de beaucoup de choses et on va peut-être soulever le capot. On peut se demander aussi, pour les épargnants qui rentrent dans ce produit, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Qu'est-ce qu'on peut y mettre, Mathieu Chauvin? Est-ce qu'on est libre de mettre les supports qu'on veut? Est-ce que c'est imposé? Comment ça se passe au niveau fonctionnel? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans?
Alors, le législateur a laissé une très grande souplesse sur le référencement de produits et de véhicules d'investissement à l'intérieur du PER. On peut, dans la théorie, loger autant des titres vifs que des OPC, que le fonds en euros qui constitue l'actif général de la compagnie d'assurance, que des produits structurés, des produits de private equity, des produits immobiliers. Donc c'est vraiment un produit qui est très très ouvert sur le plan réglementaire. Après, il y a les propositions de valeur des offres de marché qui se mettent en place et les assembleurs de solutions que nous sommes. On va effectivement avoir des produits assez comparables à ce qu'on trouve dans les produits d'assurance vie multi-support, généralement dans les plans d'épargne retraite individuels. Attention, là aussi, on a deux environnements qui vivent leur vie chacun de leur côté. Le PER individuel qui a plutôt les caractéristiques des contrats d'assurance vie multi-support.
On a le fonds euro.
Le fonds en euros et beaucoup d'unités de compte à côté, de toute nature, toute classe d'actifs. Et donc là, c'est assez ouvert. Dans le monde du collectif, on est sur des structurations un petit peu plus réduites parce que c'est l'employeur qui doit et qui a la responsabilité de superviser les gestions et les épargne à l'intérieur des dispositifs, donc on retrouve des gammes un peu plus resserrées, mais on trouve toujours beaucoup de diversité dans les classes d'actifs qui permettent à un épargnant de se constituer une épargne intelligemment, et surtout les systèmes de gestion pilotés sont présents dans les deux.
C'est même probablement ce qui est pris le plus fréquemment dans les souscriptions, je ne sais pas vous, sur vos contrats, dans quelle mesure la gestion à horizon, par horizon, est adoptée en fait.
Alors la gestion à horizon, alors il y a la gestion pilotée et la gestion pilotée à horizon, ce sont deux éléments différents.
Par défaut, c'est à horizon, c'est ça,
hein. Alors, donc souvent pilotée est-ce que c'est à horizon, c'est qu'on rajoute sur une gestion pilotée, c'est-à-dire une gestion faite par un professionnel, le fait de désensibiliser le portefeuille au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite. Dans nos souscripteurs, il y a quasiment pas de gestion pilotée à horizon, bien que ce soit l'élément par défaut. Ouais. Nous ne le recommandons pas parce que, comme le dit votre intervenant, il est plus efficient de notre point de vue de faire le point régulièrement avec le souscripteur pour déterminer avec lui ses objectifs, sa situation, voir si quelque chose a changé, voir comment les marchés ont changé, et le faire changer éventuellement d'une gestion pilotée dynamique à prudente.
Vous avez plutôt des profils avec appétit au risque.
On change de profil en fonction de l'évolution de la situation personnelle et de l'évolution de l'économie des marchés.
Parce que finalement, la gestion à horizon peut être assez brutale, c'est ça, c'est on désensibilise, donc on peut couper des positions.
Non, c'est celle-là. Celle à horizon, c'est automatique. Il y a une notion d'automaticité. Tant d'années avant la retraite, vous n'avez plus que X% de votre gestion pilotée. Et puis, très proche de la retraite, vous êtes quasiment entièrement sur un support sécurisé.
Mais on comprend qu'on ne va pas prendre le plus de risques. Voilà, en fin de parcours, évidemment, il vaut mieux sécuriser. On sait qu'il y a de temps en temps des crises sur les marchés.
Oui, mais
voilà, sur le long terme,
ça ne correspond pas nécessairement à l'ensemble des souscripteurs.
Donc, ils peuvent reprendre la main, finalement, sur leur épargne.
Ils peuvent reprendre la main et repasser en gestion libre et on en voit.
Julien, on aborde quand même la question qui fâche, les frais.
Oui, toujours, hein, surtout en ce moment où les taux sont bas. Donc, on a souvent fait le reproche depuis son lancement à son produit d'être très chargé en frais. Alors, M. Chauvin, est-ce que c'est vrai? Quels frais il faut surveiller? Frais d'entrée, frais de gestion?
Il y a tout type de frais, effectivement, dans ces produits. Comparativement au monde d'avant, c'est pas des produits qui sont plus chargés que les perpes qu'on trouvait sur le marché avant. Ils sont assez en ligne avec ce qu'on trouve généralement sur le marché. Là-dedans, il y a la rémunération de l'assureur, la rémunération de l'intermédiaire. Donc, il faut aussi intégrer tout le conseil qu'on doit délivrer autour de ces produits aujourd'hui. Hein, quand on parlait d'analyse de transfert, quand on parlait de conseil à tout moment de la vie importante du contrat, il faut effectivement rémunérer d'une certaine façon ce conseil. Donc, c'est important aussi de le valoriser. On trouve des frais d'entrée qui s'étalonnent entre zéro pour les produits qu'on va trouver en ligne, des produits un peu vanille qu'on trouve sur Internet et c'est quoi les produits un peu vanille? C'est des produits où effectivement on va vous faire acheter les frais à zéro et derrière la façade, il manque un petit peu de diversité, il manque un petit peu où nos flux d'épargne sont un peu orientés pour reconstituer de la marge chez le fabricant et chez le distributeur. Donc c'est simple en apparence et attirant à l'œil quand on voit affiché zéro frais. Et derrière, il faut toujours s'interroger de savoir où est-ce que se passe la rémunération des intervenants. Et c'est bien naturel que les intervenants se rémunèrent, parce que s'il n'y a personne pour promotionner et faire la promotion de ces produits, c'est des produits qui ne fonctionnent pas.
D'accord. Et du côté de MyPension, justement, sur les frais, je crois que vous avez
un mode de rémunération qui est un petit peu différent et qui est notre marque de fabrique. On essaye d'être un petit peu entre les deux modèles qu'a décrit Mathieu. Entre le modèle digital avec le minimum de frais et le modèle de conseil personnalisé. C'est-à-dire que nous, on va essayer d'apporter le conseil tout en ayant des frais qui se rapprochent des contrats en ligne. Et pour faire ça, on tient beaucoup à un concept qui est le modèle de conseil indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des problématiques que Mathieu a indiqué, c'est qu'il peut y avoir un biais de conseil lié au fait que la rémunération en rétrocommission est plus importante sur un produit risqué que sur un produit prudent. Et ça nous paraît être un problème majeur. Et pour contourner ce problème, nous passons sur ce que nous appelons des clean shares, des parts propres selon un anglicisme horrible.
Ça se développe beaucoup en ce moment.
En fait, ce sont des parts sans rétro. Et notre commission à nous de conseil, qui correspond bien à l'activité de conseiller à la fois sur la gestion et à la fois sur la vie du contrat, est stable, fixe et à l'intérieur des frais de gestion du contrat.
C'est ça. Vous, c'est frais de gestion du contrat.
Et après,
derrière,
on investit
les
sur
fonds
des parts
eux-mêmes
sans rétro.
Ne vous redonnent pas.
Exactement. Une part des et ça, c'est un modèle qui est relativement unique aujourd'hui. Et on pense que c'est un modèle d'avenir.
Il faudra voir sur le long terme les performances.
Absolument, c'est toujours là que ça se joue. Mais, tout à fait.
Bon, ben voilà, on a fait un petit peu le tour de ce produit, hein, donc qui plaît de plus en plus. Les chiffres en attestent, on a bien compris. On peut donc diminuer son revenu avec ses versements. On peut le transférer. On a des frais finalement contenus et puis la même mécanique, enfin peu ou prou que l'assurance vie, en tout cas pour le Perrin et puis le Percol. Si vous avez la chance hein, d'en bénéficier dans les entreprises, ou peut-être c'est le moment d'aller voir son DRH et de dire tiens, il se passe des nouveautés du côté de l'EHPAD. En tout cas, un grand merci à nos deux invités. On va rappeler évidemment vos sites internet, messieurs. Donc Mathieu Chauvin, RS, président d'RS, merci d'être venu. RS-group.com.
Sans eux.
Sans eux.
Ouais. À groupe.
Voilà.
Voilà. Et effectivement, super produit et avec des vrais enjeux patrimoniaux, donc il faut vraiment s'y intéresser.
Et Christophe Olivier, le directeur de MyPension Expert. Donc attention, il y a des homonymes. Donc MyPension en anglais, MyPension et Expert, XPER, comme le plan d'épargne retraite. Un grand merci. Messieurs. On continue dans un instant avec le coup de cœur, le coup de gueule de Pierre Sabatier.
Merci, messieurs.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
Le coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier qu'on retrouve en vrai. Bonjour Pierre.
Ah, ça fait plaisir de vous voir en vrai. Bonjour Fabrice. Bonjour.
C'est vrai. Le président de PrimeView. Alors le coup de cœur, on s'intéresse à l'immobilier et en particulier aux maisons.
Oui. C'est intéressant parce que c'est vraiment, ça nous rappelle le fait que sur les marchés en général, immobilier ou financier, au final, c'est quand même le consommateur qui fait le marché. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est grosso modo, vous savez que partout dans le monde, le secteur immobilier a très bien résisté à la crise sanitaire. Hein. C'est vraiment un paquebot qui n'a pas souffert en fait de la crise, essentiellement parce que vous savez ce qui fait les prix de l'immobilier. C'est simplement le rendez-vous que vous avez avec votre banquier en lui demandant « je peux avoir combien ?». Et donc la conséquence de la crise favorable d'un point de vue financier pour les ménages a été évidemment la baisse des taux d'intérêt et des conditions de financement très favorables partout dans le monde. Donc les gens ont pu mobiliser plus d'argent. Ce qui est intéressant, donc ça c'est toujours favorable au secteur immobilier vu qu'on estime que les taux d'intérêt vont rester bas pendant longtemps, ça devrait rester le cas. Maintenant qu'on rentre dans le détail, ce qui est passionnant depuis un an, c'est que pour la première fois depuis presque 30 ou 40 ans, eh bien, il y a une vraie divergence des prix et du dynamisme du marché en fonction du fait de regarder les maisons d'une part ou les appartements d'autre part. En fonction de l'endroit où on regarde, est-ce qu'on regarde les métropoles ou est-ce qu'on regarde les villes plus déconcentrées, les villes moyennes, voire les zones rurales? Depuis 30 ou 40 ans, le choix était systématique. Des appartements dans les grandes métropoles. C'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. Partout. Or, conséquence de la crise sanitaire, et c'est là où c'est intéressant, hein, au départ de l'acte d'acquisition, il y a toujours l'envie et le désir. Eh bien, la crise sanitaire a probablement changé le désir de nos populations quant à ce qu'ils ont envie d'acheter dans l'immobilier. Et on voit quoi? On voit un dynamisme du marché des maisons exploser, alors qu'on a un dynamisme du marché des appartements extrêmement limité, avec des prix d'ailleurs qui le reflètent, hein, puisqu'on a des hausses de prix dans les villes moyennes en France, dans les zones rurales qui dépassent parfois la croissance à deux chiffres, donc au-delà de 10%, alors que sur les appartements dans les grandes métropoles, on est autour de zéro. Hein, c'est assez poussif. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce changement de philosophie, ce changement d'attente, il n'est pas que français. Il se retrouve partout dans le monde. Et je prendrai un exemple, c'est toujours important de l'avoir en tête, c'est le marché directeur, c'est l'économie de référence, les États-Unis, eh bien, sont frappés par les mêmes mots. On a regardé, en fait, l'évolution du prix de l'immobilier dans les 20 plus grandes métropoles américaines, et ils nous disent tous les mêmes choses. La dynamique de prix est toujours la même. Plus 10%, plus 15% pour les maisons, rien pour les apparts. Et donc, ce qui va être intéressant de regarder, c'est évidemment un coup de cœur, et surtout, ça nous permet de revenir sur ce fait important, qu'un marché, il ne se fait pas toujours dans les grandes lignes, il se fait aussi dans le détail. Et comprendre toujours la demande des ménages qui est susceptible de changer, est un élément important pour choisir l'endroit de l'investissement et pour choisir le type d'investissement. Et vous savez, dans l'immobilier, tous les professionnels vous le diront, l'important, c'est le lieu. Et la qualité du lieu. Eh bien, de manière extraordinaire, à la différence des 40 dernières années, le lieu dans lequel il faut acheter a peut-être changé.
Donc c'est un vrai coup de cœur intéressant.
Voilà, vive New York, Paris, vive Clermont-Ferrand.
Vive Clermont-Ferrand, et j'irai même plus loin. Beaulieu, village de 450 habitants, où j'ai la chance de vivre avec mon épouse et mes trois enfants.
Vive les maisons. Voilà pour le coup de cœur. On passe au coup de gueule. Un coup de gueule sur ces investisseurs qui sont tiraillés en permanence entre la gestion value et la gestion growth, la gestion valeur ou la gestion croissance. Qu'est-ce
Exactement.
Que c'est? On récapitule.
Le coup de gueule est surtout vis-à-vis des investisseurs et de leur mémoire sélective. C'est quand même marrant, ça. Depuis 6 mois, on vous dit, ça y est, c'est la fin des secteurs d'activité qui nous ont portés sur les marchés actions, à savoir le secteur de la techno, le secteur de la santé, toutes ces boîtes qui offrent de la visibilité dans un monde relativement incertain. Alors vous allez me dire, c'était pas nouveau. Ça fait 15 ans que ça surperforme. C'est-à-dire que ces valeurs-là, les belles valeurs, mais j'ai envie de dire, un investisseur normal, je ne s'en étonnerait pas. Est-ce que c'est normal que les valeurs qui offrent de la visibilité fonctionnent mieux en termes de cours boursiers que les valeurs qui en offrent moins et qui sont plus cycliques? La réponse naturelle, c'est normal. Et effectivement, depuis 15 ans, ce secteur d'activité, cet indice qui représente les plus belles valeurs qui offrent de la visibilité d'un point de vue sectoriel aux investisseurs, surperforme de 60% les valeurs qu'on va appeler les valeurs cycliques. Donc qu'est-ce que c'est? Des financières, des bancaires, des producteurs d'auto qui sont complètement liés à la conjoncture économique qui n'est pas extraordinaire d'ailleurs depuis une quinzaine d'années. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les 6 derniers mois. Sur les marchés, on vous dit que maintenant, c'est terminé, il faut acheter du value. Il faut acheter des banques, il faut acheter des producteurs d'auto, des constructeurs. Tout ce qui est sensible à la reprise économique qui est là. Il ne faut pas le nier. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça a marché 2 semaines en novembre, au moment où on a annoncé la stratégie de vaccination, donc la lumière au bout du tunnel, et tout le monde s'est mis à jouer la reprise. Mais très vite, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez l'indice, l'évolution de l'indice, qui représente ces valeurs qui offrent de la visibilité par rapport à l'indice cyclique, c'est-à-dire toutes les valeurs qui ont été décotées et massacrées l'année dernière. Eh bien, vous apercevez que le premier surperforme de 2,5% depuis 6 mois, le second. Et donc, c'est intéressant, et c'est là où je voulais simplement mettre en alerte et pousser un coup de gueule. Méfiez-vous quand même des messages qui sont martelés, notamment sur ce sujet-là, où il faudrait toujours acheter les valeurs décotées parce que ça a trop baissé. Vous savez, parfois, les investisseurs et les marchés n'ont pas toujours tort. Et quand des valeurs baissent beaucoup, eh bien, il y a des raisons à cela. Et ce n'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça va rebondir. Donc, malheureusement, l'alchimie qui transforme des piètres choses en or, ça n'existe pas encore. Et donc, il faut avoir en tête cela et bien se dire que les investisseurs ont parfois la mémoire sélective et ont tendance à toujours commenter lorsque, finalement, le marché leur donne raison et insister sur leurs arguments en oubliant... j'irais d'identifier et de souligner finalement leurs erreurs lorsque la montagne, voilà, on est sur l'autre face de la montagne. Donc en coup de gueule, pour les investisseurs sur les marchés actions, ayez une mémoire moins sélective et plus réaliste.
Merci Pierre Sabatier, le président de PrimeView.
Merci à vous.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Ça vous concerne, votre rubrique préférée, puisque ce sont vos questions et les réponses des experts. Je suis en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault.
Bonjour Fabrice.
Journaliste à Capital pour poser les questions. Et première question, c'est pour mettre Nathalie Cousigoussuaz. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, on a une première question pour vous Thibault.
Oui, alors c'est une question de Caroline qui vient d'acheter sa résidence principale et elle a été contactée très rapidement par une personne qui aimerait lui acheter ce bien. Alors elle a fait le calcul, elle réaliserait une belle plus-value, mais elle aimerait s'assurer qu'elle ne sera pas taxée.
Oui, effectivement. Et elle a raison, Caroline, de s'en inquiéter. Rappelons déjà que lorsque l'on vend un bien à prépondérance immobilière ou un bien immobilier et que vous faites un profit dessus, eh bien, l'État peut vous prélever ce qui s'appelle un impôt de plus-value immobilière, qui est assez élevé, qui est de l'ordre de 34,5% sur le montant de l'imposition. Pendant 22 ans, on est taxé de détention, on est taxé à l'impôt sur la plus-value. Et de 22 à 30 ans, il y a des prélèvements sociaux. Donc c'est une taxation assez très lourde, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains biens, à l'occasion de la vente, ou dans certaines conditions, on peut être exonéré de cet impôt sur la plus-value qui est prélevé par le notaire au jour de la vente. C'est-à-dire que c'est vraiment un impôt qui est collecté le jour de la vente. Eh bien, il y a des cas d'exonération, et notamment l'un des cas d'exonération, c'est la détention de la résidence principale. C'est visé à l'article 150U grand 2, premièrement, du Code général des impôts, qui vous dit que la cession de la résidence principale est exonérée. Mais pour que ce soit une résidence principale, il faut qu'il y ait plusieurs conditions. Que ce soit réellement la résidence effective du contribuable et qu'il y ait le source de ses intérêts économiques et familiaux. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une convenance parce que c'est vérifié par l'administration fiscale. Alors, dans le cas de Caroline, ce n'est pas parce que c'est vendu très vite qu'elle va être assujettie à la plus-value. C'est éventuellement parce qu'il n'y aura pas de preuve que c'était sa résidence principale. Et il y a un arrêt très intéressant, ce n'est pas un poisson d'avril, qui a été rendu il y a très peu de temps par la Cour administrative d'appel de Nantes, le 1er avril dernier. Effectivement, dans les mêmes conditions, Caroline, c'est-à-dire que la personne avait fait construire sa maison, elle avait terminé sa maison et 2 mois après, elle la vend parce qu'elle avait eu aussi une offre très alléchante. Et elle avait indiqué que c'était sa résidence principale. L'administration fiscale ne l'a pas entendue de cette oreille et l'a taxée au titre de l'impôt sur la plus-value, extrêmement, d'une façon très importante, parce qu'il n'y avait pas en plus de décote. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 5 ans, on a une décote et puis plus on avance dans le temps, il y a des décotes. Donc là, l'administration fiscale, elle a dit « moi, je ni le fait que ce soit votre résidence principale. » Et ce n'est pas le fait que c'était très, que c'était à une période très courte d'acquisition et de revente, mais le fait qu'il a été démontré que la personne avait une autre résidence principale, qu'il y avait très peu de consommation d'eau, de gaz, de fluide dans cette nouvelle résidence principale qui a fait qu'on lui a refusé la qualité de résidence principale. Donc concrètement, même ça peut être vendu, il n'y a pas de délai de détention, il n'y a pas de condition de durée, ça peut être vendu 6 mois après, mais il faut montrer que c'était effectivement la résidence principale du couple et qu'on ne s'était pas mis là concrètement pour échapper à l'impôt.
Donc Caroline, par exemple, si elle habite effectivement le bien qu'elle vient d'acquérir,
exactement,
pas de problème, potentiellement, elle peut le revendre.
Tout à fait, elle peut le revendre, il n'y a pas de condition de détention. Hein. Alors le problème se pose aussi, vous voyez, par exemple, lorsque, surtout dans les divorces, on voit ça, ou les séparations de couple, où les époux ne s'entendent plus et qui quittent le bien qui était autrefois la résidence principale. Eh bien, il faut savoir qu'il faut distinguer. Si on le quitte, si on l'a mis en vente au jour où on le quitte et qu'il est vendu dans un délai normal, même si ce n'est plus la résidence principale au jour où on le vend, on pourra toujours être exonéré de la plus-value au titre de la résidence principale. Voyez. Deuxième solution, et ça on trouve souvent ça justement dans les séparations, l'un est resté dans la résidence principale, l'autre est parti, soit de son plein gré parce que le juge lui a dit faut laisser la résidence principale à l'un des époux, et on le vend au bout de 6 ou 7 ans, l'un des époux étant toujours dedans. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu une réponse ministérielle, et c'est dans le BOFIP, c'est qu'il n'y a pas de plus-value non plus pour l'époux, pour lequel ce n'est plus sa résidence principale, qui est parti donc depuis peut-être 6-7 ans, voire même celui-ci aurait-il acheté sa propre résidence principale. Donc, vous voyez, il y a des tolérances, il ne faut pas se précipiter. Moi, si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, prenez déjà contact avec votre notaire, calculez sur les sites qui sont très bien faits le montant de la plus-value, parce que quand vous êtes assujetti à la plus-value, quand ce n'est pas votre résidence principale ou quand il n'y a pas de possibilité d'exonération pour d'autres raisons, eh ben, ça se décote par année. À partir de la 5e année de détention, eh bien, vous avez 15% supplémentaire liés à des travaux censément faits sur le bien, qui s'ajoutent au prix d'achat. Parce qu'on est bien conscient que le montant de la plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Donc, à partir de la 5e année, on rajoute au prix de revente 15% au titre de travaux qui auraient été faits. Et après, la plus-value se décote année par année. Donc, imaginez que vous vendez votre résidence secondaire. Vous signez une promesse de vente le 3 juin 2021. Et qu'en fait, vous avez acheté votre bien le 3 novembre 2012, bah vous avez intérêt à vous mettre d'accord avec votre acheteur pour le revendre à partir du 4 novembre 2021 parce que vous aurez gagné 1 an. Voyez. D'accord. Donc il faut être très vigilant, on ne voit pas tout ça. Alors évidemment, s'il y a 6 mois avant qu'on atteigne la nouvelle, une autre année, on va laisser faire. Mais parfois, j'ai vu des clients qui n'avaient pas réalisé ça, qui avaient signé la promesse de vente entre eux. Et on s'est aperçu qu'à une semaine près, ils avaient perdu, entre guillemets, 1 an de détention. Donc il y a des petits trucs à savoir.
Une bonne astuce, effectivement. Merci, maître Cosigoussia. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris. Tout de suite, une nouvelle question, un nouvel expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Nouvelle question, nouvel expert, on accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Directeur associé chez Pixis Conseil. Thibault, on a une question d'Antoine.
Oui, alors on a Antoine, il a acheté un logement pour le rénover et ensuite le mettre en location. Alors malheureusement pour lui, il n'a jamais pu finir les travaux, ni le louer. Alors il se demande s'il peut quand même déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour acheter ce bien.
Alors, c'est des situations effectivement qui peuvent arriver aujourd'hui compte tenu de la situation, d'avoir des travaux qui s'arrêtent ou des problèmes de location. Je vais peut-être juste rappeler le principe, c'est-à-dire que normalement, lorsque dans le cadre des revenus fonciers, on réalise des travaux d'amélioration, d'entretien d'un bien, il faut que ce bien soit loué dans le principe pour pouvoir admettre la déductibilité de ces travaux, voire même des intérêts d'emprunt si jamais on a fait un crédit. Donc quelque part, c'est la condition pour avoir la déductibilité. On a un tempérament qui peut s'appliquer, qui est la possibilité de déduire ces travaux, par exemple, si on envisage de louer le bien. Donc là, en fait, comment il faut procéder? Ça veut dire qu'il faut déjà, je rappelle, être quand même dans le régime du réel et non pas être dans le régime des micro-revenus fonciers. Il faut être dans le régime réel qui va permettre de déduire le montant des travaux qu'on réalise. Et ça implique, deuxièmement, dans la déclaration d'impôt, de mentionner que des charges et pas de revenus puisque le bien ne sera pas encore loué. Donc dans cette situation-là, il faut mettre une mention express qui indique que on a l'intention de louer le bien et que l'administration fiscale, lorsqu'elle voit passer la déclaration, elle a les charges et elle a le fait que le bien va potentiellement être loué dans les mois ou l'année à venir. Quand on a dit ça, on a quand même face à un problème, c'est que il faut pas que, et c'est peut-être le cas d'Antoine, il faut pas que entre la déductibilité qui a été admise des charges et le loyer qui va rentrer, il faut qu'on puisse justifier de la période. C'est-à-dire que si la période est longue, il va falloir justifier le pourquoi est-ce que la location n'a pas eu lieu. Donc après, ça peut être des problèmes d'agences qui n'ont pas trouvé de locataire ou de choses comme ça. Mais dans le cas d'Antoine, par exemple, qui a arrêté les travaux, donc ça veut dire que le logement n'est pas fini, et donc du coup, qui n'a pas de locataire, si cette situation dure, il ne pourra pas prendre la déductibilité des travaux et des charges liées à ce bien. On a en plus une jurisprudence qui est plutôt ferme sur le fait de considérer que si le bien est laissé à la jouissance du propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas loué, même si jamais il n'est pas laissé à sa propre jouissance, mais si le bien n'est pas loué, l'administration est plutôt ferme sur le fait de dire « nous n'admettrons pas la déductibilité des charges qui sont liées à ce bien-là ». Alors, pour le cas d'Antoine, qui peut-être envisage une meilleure fortune dans un an ou dans deux ans, ce qu'il est possible de faire, c'est d'attendre de voir peut-être un peu plus clair dans sa projection de location. Et puis, à partir du moment où il aura trouvé un locataire et que le bien sera mis en location, de faire ce qu'on appelle les déclarations rectificatives, c'est-à-dire de revenir les années en arrière. On peut revenir sur 3 ans, donc déposer sur 3 années passées des déclarations rectificatives qui prendront en compte les travaux qui ont été faits, éventuellement, et en indiquant effectivement que le bien, à partir de cette certaine période, est loué. Donc vaut mieux parfois, plutôt que de mettre des charges et en se disant « j'espère que mon bien va être loué », vaut mieux parfois faire l'inverse et puis se dire « je vais attendre que mon bien soit loué et éventuellement je ferai des déclarations rectificatives en imputant les charges sur les futurs loyers que je sais que je vais avoir puisque mon bien va être loué. »
Donc le conseil pour Antoine, pour le moment, c'est plutôt d'attendre.
C'est d'attendre. Et puis, alors après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si jamais il dépasse ces 3 années, tous les travaux qui auront été réalisés seront perdus. Il ne pourra plus les imputer. En revanche, si dans les 3 années à venir, il espère, et je lui souhaite, avoir terminé ses travaux et avoir trouvé un locataire, dans la mesure où il n'est peut-être pas sûr du délai, j'attendrai d'avoir trouvé le locataire. Et puis ensuite, je ferai des déclarations rectificatives en imputant les charges.
Merci Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, une dernière question.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Une dernière question, c'est pour Charlotte Tamer qui va nous répondre en vidéo. Thibault, on a une question d'un internaute.
Tout à fait, c'est Thomas qui s'est lancé en bourse cette année. Alors le problème de Thomas, c'est qu'il n'est pas très sûr de lui, il ne connaît pas grand-chose aux actions. Donc pour limiter le risque qu'il prend sur les marchés boursiers, il pensait à mettre en place des ordres de bourse à cours limité. Il veut savoir s'il est intégralement protégé sur son capital grâce à ses outils.
On écoute la réponse tout de suite.
Alors, pour répondre à Thomas, qui vient de mettre en place son premier portefeuille boursier et qui se demande si un ordre à cours limité peut protéger totalement son portefeuille. Alors, la réponse est bien évidemment non. Mais avant de rentrer dans le développement, je pense qu'il est important de bien comprendre ce qu'est un ordre à cours limité. Un ordre à cours limité, c'est un automatisme de gestion, donc c'est un acte de gestion, c'est une option que vous pouvez mettre sur votre portefeuille et qui va déterminer, selon des seuils que vous allez vous-même déterminer, donc des seuils de cours de bourse, et qui vont déterminer des périodes d'achat lorsque le marché baisse et des périodes de vente, en fait, lorsque le marché monte. Donc en fait, c'est vous ouvrez votre portefeuille, vous sélectionnez vos titres et vous estimez qu'à telle valorisation en fonction des titres, vous allez estimer qu'à telle valorisation, le cours est plutôt bas et donc automatiquement, vous mettez en place un ordre à cours limité selon un seuil déterminé. Et donc, si on est plutôt à la baisse, ça va enclencher le rachat de ces titres. Et un ordre à cours limité à la hausse, en fait, c'est la même chose, sauf que ça va déclencher la vente de ces titres de manière à protéger la plus-value. Je vous donne un exemple. Disons que vous avez acheté des actions Y. Et ces actions Y, vous les avez achetées 50 euros. Vous estimez qu'un cours de bourse bas, c'est 20 euros. Et donc, vous allez mettre un ordre à cours limité à la baisse pour acheter des titres, et quand en fait votre action Y va atteindre 20, en fait ça va déclencher une opération d'achat. Vous allez racheter du titre à une valorisation assez basse et donc plutôt prometteuse en termes d'espoir de gain. A l'inverse, vous pouvez aussi mettre un ordre à cours limité à la hausse en estimant que 100 est un cours de bourse plutôt élevé qui vous permet et qui nécessite peut-être la vente de vos titres pour sécuriser votre plus-value. Et donc, vous allez mettre un ordre à cours limité à la hausse pour céder les titres et protéger votre plus-value. Donc, vous prenez cette option, vous l'intégrez à votre contrat et vous déterminez les cours de bourse à la baisse et à la hausse qui vous paraissent judicieux par rapport à votre portefeuille. Le fait est, c'est que si jamais votre titre, votre action Y, n'atteint jamais les 20, le marché chute et descend à 22. Et 22, ce n'est pas 20. Même si la différence est petite, ce n'est pas 20. Mais l'ordre à cours limité pour racheter des titres ne va pas se déclencher. Et c'est la même chose à la hausse. Imaginons toujours que votre action Y, achetée 50 euros, monte non pas à 100, mais à 99. Eh bien, en fait, l'ordre à cours limité pour vendre les titres et sécuriser la plus-value ne va pas se déclencher. Et donc, toute la difficulté revient à déterminer le cours de bourse qui vous paraît attractif par rapport aux titres cernés à la baisse et à la hausse, soit pour acheter, soit pour vendre du portefeuille. Et ça, on sait toujours dire un cours de bourse s'il est haut par rapport à la veille, mais c'est toujours très compliqué de déterminer l'évolution d'un cours de bourse par rapport au lendemain. En tout cas, très peu de gens, enfin personne ne sait le faire en fait aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez mettre cette option en place, mais si jamais les cours de bourse que vous avez prédéterminés ne sont jamais atteints, à la hausse comme à la baisse, alors l'ordre à cours limité ne va pas se mettre en place et l'effet escompté ne sera pas atteint. Au final, on peut peut-être dire à Thomas que s'il est à la recherche d'automatisation de ce type-là, c'est peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, on va lui rappeler quelques bons principes avant de rentrer sur les marchés qui sont de 1. Bien déterminer son budget d'investissement. Tout comme vous achetez un bien immobilier, il faut quand vous achetez un portefeuille financier, vous achetez des titres financiers. Et donc, il faut déterminer les sommes d'argent dont vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire que vous avez du temps pour leur laisser, vous avez une certaine visibilité dans le temps pour laisser le portefeuille se déployer et en fait générer de la performance, et donc être bien d'accord que le budget investi, vous n'en avez pas besoin sous un certain temps, et ensuite pouvoir l'investir tranquillement en bourse. Donc 1, bien déterminer votre budget. 2, bien déterminer l'horizon de placement que vous avez devant vous. Si vous avez 5 ans devant vous sans avoir besoin de cette épargne, ou si vous avez plutôt 8 à 10 ans, ça va jouer sur la détermination de l'allocation d'actifs que vous allez définir. Est-ce que je mets que de l'action parce que j'ai plus de 8 ans devant moi, ou est-ce que je fais un mix action-obligation parce que je suis plutôt sur des durées de moyen terme de 3 à 5 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché génère sur la durée, notamment le marché action, génère sur la durée de la performance. Mais il ne le fait pas, ce n'est pas une ascension complètement linéaire. Vous regardez par exemple le CAC 40, qui est une référence très psychologique, eh bien on va voir que sur la durée, l'ascension n'est absolument pas linéaire, qu'il y a bien une courbe ascendante, mais si vous zoomez sur les périodes du CAC 40, sur la période que vous observez, vous allez vous rendre compte que le CAC 40 lui aussi oscille. Donc en fait, le fait que le marché monte et que le marché descende n'empêche pas la performance. Il faut plutôt regarder le niveau de risque que vous prenez et la durée de votre investissement, et au maximum faire corréler les deux.
On arrive au terme de cette émission. Un grand merci à nos invités et à la technique, Pierre-Yves Falson et Nicolas Sandanassamy, qui ont réalisé cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission de la saison. À très bientôt pour un nouveau grand rendez-vous de l'épargne.
Retrouvez le grand rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.